Donc, j'en viens vous faire une petite description de ce que l'on peut comprendre sur les principes généraux d'intervention pour une isolation écologique. Voilà. Alors, il y a une attitude générale. Déjà qu'il faut avoir d'économie, on va en dire deux mots. Bon, comment on recherche du confort? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour rechercher du confort? Contrairement à des slogans, contrairement à des attitudes commerciales qui vous persuadent que vous allez avoir chaud en vous vendant des produits ou des matériels qui vous feront consommer beaucoup d'énergie, vous donneront peu de confort et vous coûteront donc cher. Voilà. Donc, après, comment on rentre dans la recherche d'économie d'énergie d'une manière générale, dans nos consommations sur l'habitat? Ensuite, alors, on va voir que ça, c'est très important. Donc, la première, et c'est le sujet de la journée en quelque sorte, la première attitude, par une attitude de comportement général économe, la première attitude, c'est de travailler l'enveloppe. Si votre enveloppe, elle est déjà très, très confortable, si les échanges thermiques se passent de manière très intéressante et si vous êtes bien à l'abri du froid ou du chaud, on va voir que c'est sur l'enveloppe là, c'est qu'on appelle l'isolation. Donc après on va parler donc du matériel, le matériau le plus important, un des plus importants, c'est l'isolant dans l'enveloppe. Et puis alors on va essayer de balayer assez rapidement les problèmes qui sont relatifs au passage de l'air, au passage de l'eau sous toutes ses formes, l'eau liquide et l'eau vapeur, bien sûr. On va rappeler les questions d'inertie, et puis on ne peut pas ne pas oublier qu'il faut faire appel à des matériels, des matériaux qui soient non polluants à tous les points de vue. Hein. Voilà. Alors donc, le premier thème, c'est l'attitude, hein, le comportement général, l'attitude, etc. Donc, je vous l'ai remis, alors là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de croquis qui sont assez beaux, là, ils sont dénaturés en couleur, ça c'est du jaune. Hein. Bon. Qui sont tirés du bouquin de Jean-Pierre Oliva. Hein, et là, lui-même, il a tiré ça de l'attitude de Négawatt, où on essaie d'avoir un comportement qui est d'abord sobre d'une manière générale. Ne pas construire des châteaux alors que vous voulez occuper de quelques pièces, etc. Savoir ne pas faire d'une manière générale, avoir une attitude qui recherche de l'économie. Bon, je n'y reviens pas trop. Alors, l'efficacité. Donc, l'efficacité, c'est justement de se créer une enveloppe qui soit protectrice, bien. Et puis, si nécessaire, s'il y a besoin d'énergie, et seulement s'il y a besoin d'énergie, il faut essayer de se passer des énergies, si ça veut dire. S'il y a besoin des énergies, ne prenons évidemment autant que possible que des énergies renouvelables. Voilà. Ça, c'est le discours de recherche, en quelque sorte. Pas toujours facile et qu'on est toujours, nous tous, obligés d'adapter. Voilà. Alors, la recherche du confort, donc, il faut savoir comment se font les échanges thermiques d'une manière générale. On rappelle rapidement qu'il y a les modes de transmission par convection, par conduction, par rayonnement. Alors, la convection, c'est ce qu'on appelle maintenant, regardons le grille-pain, c'est-à-dire le petit radiateur électrique qui vous chauffe l'air et vous pensez qu'à l'autre bout de la pièce, vous allez avoir chaud. Mais le temps que l'air vous propage sa chaleur, ça sera difficile. Le radiateur sera arrêté, après il va se remettre en marche, etc. Bon, il y a alors qui n'est pas efficace du tout, parce que ça ne chauffe que l'air, hein, et très lentement après les autres éléments. Bon, il y a un mode par conduction, bon, ça c'est vraiment la casserole sur le feu qui reçoit la chaleur et puis qui fait bouillir l'eau. Donc ça, c'est les matériaux qui sont très, très conducteurs. Et c'est surtout alors le mode par rayonnement. Donc c'est le soleil qui nous chauffe, par exemple. Le soleil, il est très loin de nous. Vous êtes en plein soleil, vous avez chaud. Donc c'est le rayonnement, c'est une propagation électromagnétique qui vous donne donc le contact, la communication de cette chaleur. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en général, la chaleur, elle se dégage du corps chaud pour aller vers le corps froid. Donc, si vous êtes dans une pièce où les murs sont faiblement froids, vous avez toujours eu l'impression que c'est le mur qui vous apporte du froid. En fait, c'est vous qui lui apportez de la chaleur. Et donc, la chaleur sort de chez vous. Bon, c'est comme ça que ça s'explique. Alors qu'on a l'impression que c'est le mur qui rayonne le froid, la paroi froide. Bon. Alors, la sensation de confort, elle vient non pas de se chauffer, de chauffer l'air autour de soi très, très fort avec des murs froids, c'est au contraire d'avoir des murs pas froids, et vous-même, vous aurez un air qui sera moyennement chauffé comme ça, et vous aurez une sensation de confort bien, bien plus importante. Voilà. Alors, grosso modo, on dit que la chaleur reçue, enfin perçue dans le corps, c'est la somme des deux divisée par la moyenne des deux. C'est-à-dire, ici, vous auriez à peu près un sentiment d'avoir une température de 18,5 degrés, alors qu'ici, vous en auriez 24, 12, 36, 18 aussi, mais vous voyez qu'il faut chauffer l'air de manière très importante. Donc, perte de consommation d'énergie et perte d'énergie. Voilà. Alors, je vous rappelle simplement, tout petit rappel, c'est important, j'ai essayé de vous donner des éléments repères. On va parler un petit peu des objectifs du Grenelle, etc., un tout petit peu. Et il y a tellement de discours, de documents que nous avons sous les yeux qu'on ne sait plus à quoi se fier. Alors, est-ce qu'on parle du chauffage uniquement quand on parle des consommations de l'habitation, ou est-ce qu'on parle de l'ensemble des postes de consommation d'énergie? Alors, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a grosso modo 70% en chauffage, et puis le reste, 30% sur la production de chaud, etc. Donc, quand vous allez rechercher les objectifs, sachez si on vous parle uniquement de chauffage seul, ou si on vous parle toute consommation confondue. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est pas plus compliqué que ça. Donc 70%, 30% à peu près. Hein. À peu près. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous ai mis ici les grands objectifs du Grenelle. Alors BBC, ça veut dire bâtiment, basse consommation. Alors petit à petit, actuellement on vit sur la réglementation de 2005, la réglementation thermique. On attend la réglementation de 2012. Alors ici vous avez les consommations en général. Pour le total des consommations, ici pour le chauffage seulement, hein, donc c'est 100% et 70% en gros. Alors dans le neuf, vous avez des performances demandées, et dans l'ancien, on s'oriente vers ça. Alors 2012, on attend la réglementation, mais si vous lisez les gens qui sont bien informés sur l'avenir des questions énergétiques de la planète, etc., ils vous disent que c'est pas la peine qu'on fasse des réglementations tous les 5 ans, tous les 10 ans, etc., il faut tout de suite atteindre les objectifs qu'on veut avoir en 2050. C'est pas la peine que vous fassiez vous des travaux, et puis dans 10 ans, vos enfants vous diront, ben non, tu aurais dû mettre 5 cm ou 10 cm de plus d'isolant, ou tu aurais dû faire un mode de chauffage un petit peu plus performant, dès le moment où vous investissez. C'est ça que ça veut dire. Hein, donc, là, quand je vous mets objectif BBC, c'est vraiment les objectifs qui ne seront pas encore forcément demandés d'une manière très, très importante pour 2012, mais qui seront demandés en 2020, par exemple. Alors autant aller tout de suite au but, voilà, pour économiser la planète. Alors, dans l'ancien, dans le 9, vous savez que les objectifs, c'est grosso modo d'obtenir un niveau de consommation de 60 kWh par mètre carré par an, 60, et dans l'ancien, on sait qu'on ne pourra pas atteindre ces objectifs-là, et c'est donc aux alentours de 80 ou 100. Il ne faut pas dire que le bâti ancien n'est pas capable de ceci et de cela par rapport au bâti qu'on va construire prochainement. Simplement, si vous faites le petit calcul économique en disant, bon, mon bâti ancien, il ne vaut rien. Donc, je le détruis et je construis un bâtiment neuf à la place. Eh bien, la consommation, je ne vous fais pas le calcul, mais vous trouverez ça dans beaucoup d'ouvrages, le calcul de la destruction d'un bien existant et la construction d'un nouveau bien plus performant va vous coûter au final plus cher que si vous aviez aménagé le bâti ancien. C'est ça que ça veut dire. Donc ne vous sentez pas pénalisé en disant, ah ben non, le bâti ancien, on n'obtiendra que des performances de 80 à 100% de kWh par mètre carré par an en énergie. Le bilan global, il est favorable relativement à maintenir le bâti ancien. Imaginez qu'on détruise nos centres-villes et qu'on veuille construire des villes neuves à la place. voyez qu'il y a sûrement des dégâts économiques, énergétiques, très très importants. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Alors, je vous ai parlé de BBC. Donc, c'est le label français de l'association Effinergie BBC. Ce sont des labels qui sont reconnus par l'État pour obtenir des performances suffisantes. Mais il y a mieux que ça, et en particulier utilisé en vigueur en Allemagne, en Suisse, etc. C'est le mode passif, c'est-à-dire où on consomme encore moins que ce qu'on est en train d'accepter en France dans nos réglementations successives. Alors, je vous donne ce tableau-là parce que ça vous donnera des idées simplistes, mais claires et simples. C'est-à-dire que, alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire si on veut vraiment satisfaire aux objectifs du Grenelle? Mais pour les toitures, on va vous demander en France 30 à 40 cm d'épaisseur d'isolant. Alors, quand on dit d'isolant, ce n'est pas n'importe lequel. C'est tous les isolants courants performants qui ont un fameux lambda de 0,04. Hein, c'est les plus courants. Donc, ça part de notre ancienne laine de verre, si on peut dire, jusqu'à nos laines de chanvre, nos ouates de cellulose, etc. On verra cet après-midi. Donc, il faut maintenant, dans les toitures, hein, environ 30 à 40 cm d'épaisseur d'isolant, avec ces isolants-là. Donc, vous voyez, c'est considérable. Et si on veut aller dans le passif, c'est plus de 40 cm. Bon. Ensuite, mais alors là, après, si vous êtes dans le passif, après, vous n'avez plus de consommation. Vous avez une maison qui ne vous demande pas de consommation, sauf pour faire cuire vos carottes ou vos pommes de terre, hein, ou votre riz. Bon. Ça, il faut le voir, parce que vous faites un investissement, mais il est à très long terme. Voilà. Ensuite, pour les murs. Alors là, les murs, c'est 15 à 25 cm pour en France, en BBC. Et si vous voulez vraiment des murs en passif complètement, c'est 35 cm. Voilà. Bon, les constructions contemporaines peuvent satisfaire largement à ce genre de préoccupations. En ce qui concerne les sols sur terre-plein, j'ai pris quelques éléments simplement de repérage. Bon, 10 à 15 cm, à 16 cm pour le BBC et jusqu'à 30 cm. Non, mais vraiment, dans les passive house, on fait vraiment une espèce de cocon complet. Et puis après, il faut le ventiler, revoir. Bon. Ensuite, alors, les ponts thermiques, donc, là, il n'y a pas de précision. Il faut les éviter, c'est évident, dans la construction neuve. Alors, la construction qu'on a faite jusqu'à maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de ponts thermiques. À tous les balcons, etc., dans les immeubles construits en béton armé, etc., ce sont comme des ailettes de radiateurs qui vous prennent la chaleur d'été, mais qui vous prennent aussi, ou qui vous font partir votre chaleur en hiver. Voilà. Et puis l'étanchéité à l'air, donc, dans la mesure où on fait des espèces d'éléments encapsulés un peu, dans le passive house, on demande donc un 0,6 volume par heure. J'ai simplifié les données, c'est pour se donner des idées assez simples. 0,6, c'est-à-dire un demi, grosso modo, un demi volume par heure de renouvellement d'air. Or, dans le bâti ancien, on ne s'est jamais préoccupé de ça. Il y a un renouvellement de l'air automatique, etc., qui se fait sûrement avec quelques déperditions énergétiques, mais en fait, il se fait naturellement. Donc, mais maintenant, il faut tout calculer si on fait une construction. Voilà, ça, c'est donc les références qui sont recherchées pour le bâti futur. Alors, on se rapproche de nos préoccupations. C'est l'enveloppe qu'il faut traiter. Hein, vous l'avez vu avec les objectifs que l'on recherche. Donc, il faut vraiment faire un gros effort d'isolation de l'enveloppe. Voilà. Alors, donc, ce qui est important, c'est non seulement l'épaisseur, mais on va le voir, c'est la manière dont cette épaisseur elle est gérée. Et c'est-à-dire que de la manière dont cette épaisseur est mise en œuvre. Vous allez voir, donc l'épaisseur, évidemment, et la qualité, on va y revenir. Et puis, alors, tous les problèmes de joint, de jonction entre deux éléments. Parce que c'est là que tout fout le camp. Hein, on va y revenir. Et donc aussi, la chose importante que Jean-Pierre Oliva met en évidence dans son bouquin, parce que ce bouquin-là. C'est une réflexion tout à fait récente, si vous voulez, des phénomènes thermiques. Il met en évidence, on va voir l'incidence que ça a pour nous, les questions du passage de l'air. Voilà. Alors, l'enveloppe. Alors, c'est tous les problèmes de l'eau, de l'air et de la vapeur d'eau, en permanence. Alors, une paroi qu'on va appeler perspirante, hein, donc il laisse transiter. Alors, donc d'abord, il est bien évident que, si possible, on ne va pas avoir d'eau. Bon, c'est évident. Ici, il faut que l'air ne transite pas à travers nos parois. C'est bien évident, mais il y a toujours des risques et des désordres, et surtout une perte de performance énergétique. On va le voir. Ici, donc, ce que j'ai déjà dit, donc, c'est laisser passer les questions de vapeur d'eau, etc. Petite règle, alors j'aborde un peu rapidement le problème de, pour vous donner des idées claires. Il faut, grosso modo, que la vapeur d'eau, ça, on est à l'intérieur, puisse toujours migrer, parce que vous, en général, à l'intérieur, on crée une pression, on est nombreux ici, on dégage de la vapeur d'eau, à l'extérieur, il y a moins de vapeur d'eau qu'ici, donc, manifestement, les murs vont absorber cette vapeur d'eau, et puis elle va migrer à travers le mur, plus ou moins bien, et peut-être qu'elle va se condenser si le mur est trop froid. Bon, mais il y a toujours... Donc, ça part toujours de l'intérieur, en général, vers l'extérieur. Donc, il ne faut pas contrarier ces flux de vapeur d'eau. Et il faut que, donc, dès que la vapeur d'eau ou l'eau, d'une manière ou l'autre, arrive sur la surface extérieure, il faut qu'elle puisse s'évacuer très, très facilement. Donc, on dit que la résistance à la vapeur d'eau, alors c'est un coefficient que vous trouvez dans les documentations techniques, le coefficient de résistance à la vapeur d'eau, il doit être bien plus important, c'est-à-dire que la possibilité d'évacuer l'eau doit être beaucoup plus importante à l'extérieur qu'à l'intérieur. Surtout pas, s'il y a un peu d'eau qui est rentrée sous forme de vapeur dans votre mur, il faut qu'elle ait toute chance de pouvoir s'évacuer, et pas l'inverse. Donc ici... porosité, si on peut dire, ou évacuation très, très facile. Ici, vous pouvez déjà essayer de contrôler qu'il n'y en ait pas trop de vapeur d'eau, c'est ça que ça veut dire. Mais une fois qu'elle y est, il faut qu'elle puisse s'échapper facilement, c'est ça que ça veut dire. C'est la règle de 5 pour 1. Voilà. On commence là. Il faut, entre les deux éléments visibles du mur, il faut qu'il y ait une possibilité beaucoup plus importante sur la partie extérieure que sur la partie intérieure. D'évacuer la vapeur d'eau. Alors, l'isolant, et bien sûr qu'il faut qu'il soit écologique, je ne veux pas y revenir, hein, son bilan carbone doit être... Bon, je ne veux pas développer ces questions-là parce que je maîtrise moins bien et puis que tout le monde est en train de se pencher là-dessus, vous comme les grands scientifiques. Donc, il faut que le bilan de consommation du carbone soit évidemment bon, qu'il n'y ait pas trop de transport, évidemment, dans ce matériau, et puis qu'il ait un cycle de vie qui soit acceptable, qu'il soit évidemment recyclable, etc. Voilà. Donc, selon les matériaux, c'est très différent. Ensuite, donc, je me redis là, respirant, l'isolant, laissant transiter la vapeur d'eau, etc. Alors, ici, vous avez un petit croquis qui vous montre, entre deux fibres de matériaux, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a un dépôt, alors vous le voyez mal parce que la reproduction se fait mal, vous avez un petit dépôt de vapeur d'eau entre deux fibres, quand ce n'est pas à l'intérieur de la fibre même, et puis s'il y a trop de vapeur d'eau, ben ça devient de l'eau, ça se concentre, une trop grande pression de vapeur d'eau se transforme en eau, c'est la température... La vapeur saturante, voilà. Alors aussi bien donc dans l'atmosphère, sur les vitres quand les vitres sont froides, qu'à l'intérieur même des matériaux d'isolant thermique. Voilà, ces matériaux, ils absorbent la vapeur d'eau, et quand il y en a trop, eh ben, l'eau peut se manifester. Non plus la vapeur, mais l'eau. Voilà. Et puis donc les qualités de l'isolant. Donc comme nous avons un bâti qui est à inertie, il faut garder cette qualité et que notre isolant ne vienne pas contredire cette qualité. Donc il faut que lui-même participe à l'inertie et donc de préférence ait une certaine inertie. Sous-entendu, parce que nous, dans le bâti ancien, si vous recherchez l'efficacité maximum d'un bâti, le mieux c'est de stopper le chaud et le froid de l'atmosphère dès qu'il va arriver sur le bâtiment. Donc ça va vous inciter à faire une isolation par l'extérieur. Or nous, on estime grosso modo que c'est toujours le cas, que nous avons un bâti dont nous apprécions l'architecture, l'histoire, son insertion dans le paysage, etc., son aspect. Et donc on ne va pas faire une isolation par l'extérieur. Donc j'exclus dans mon propos aujourd'hui quasiment les questions d'isolation par l'extérieur. Donc, alors, si vous faites une isolation par l'extérieur, vous pouvez mettre des matériaux qui n'ont pas beaucoup d'inertie, qui vont vous isoler quand même, et vous aurez un mur derrière qui aura de l'inertie. Mais si vous gardez votre mur à l'extérieur, donc comme il aura de l'inertie, à l'intérieur, il faut mettre un matériau qui garde aussi les qualités de son inertie, parce que c'est là que vous aurez du confort. Je ne sais pas si je me suis exprimé, mais suffisamment bien, mais on aura peut-être le temps d'en reparler. Alors, l'air dans les isolants, c'est très important. Alors, ce que Jean-Pierre Oliva met en évidence, premièrement, c'est qu'entre deux laits d'isolant, hein, pour faire simple, si vous avez un millimètre ici, vous réduisez, je crois, la capacité de cet isolant comme si elle était réduite de 30%, ou tout comme ça. Donc, il faut faire très très attention que vos joints soient bien serrés, et en général, on demande toujours que les joints soient croisés d'une épaisseur d'isolant à une autre épaisseur d'isolant. Il vaut mieux, à la limite, mettre deux épaisseurs d'isolant avec des joints croisés qu'un gros, une grosse épaisseur totale d'isolant avec un seul joint. Oui, bon, tout ça, on va en reparler. Alors, il met en évidence aussi le phénomène que la qualité d'un isolant, c'est quoi? C'est d'avoir... je me presse un peu parce que... c'est d'avoir, grosso modo, des petites bulles d'air, puisqu'on ne peut pas avoir du vide, ça sent encore mieux. Ça va avoir des petites bulles d'air qui ne transmettent pas la chaleur. Voilà. Mais ces petites bulles d'air, si elles-mêmes elles sont traversées par des courants d'air, eh ben, votre isolant il va être moins performant que si vous mettez un isolant un peu encapsulé, si on peut dire, c'est-à-dire où l'air ne va pas traverser cet isolant. Donc ça, c'est très important. Vous allez voir pourquoi, parce que cet isolant, vous le mettez ici, sous votre toiture, par exemple, eh bien, il faudra que les parties qui viennent prendre l'isolant, si on peut dire, ces parties-là ne laissent pas passer l'air, ne laissent pas passer les courants d'air, si on peut dire. Voilà. Ça a l'air un peu évident, mais encore faut-il le rappeler, parce que quand on est à pied d'œuvre dans un chantier, on voit tout de suite que la théorie, c'est très facile, mais la pratique, c'est plus délicat, et ça vous demande des tas de précautions qu'on a la flemme des fois d'assurer, faire les joints, revoir les joints, les rendre à l'hermétique, etc. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Donc, joints croisés. Alors, à l'extérieur, oui, j'ai mis ça, c'est très important, j'ai de plus en plus chaud, parce que... Bon, alors... Alors, à l'extérieur, alors je vous l'ai mis, c'est très important, parce que je l'ai découvert. Grosso modo, la plupart du temps, on met un parpluie. Jusqu'à une époque récente, c'était un film plus ou moins respirant. D'ailleurs, il y a 10 ans, ils n'étaient pas respirants. Maintenant, ils sont respirants. Donc, c'est sous votre toiture, vous mettez ici un film. Et puis, après, vous en mettrez à l'intérieur on mettait un pare-vapeur, maintenant, il faut mettre un frein vapeur, on va y revenir. Bon, mais il faut que ce film-là, de préférence, il vaut mieux qu'il soit rigide. Ça vous permet, à tous les points de vue, d'avoir une stabilité bien meilleure de votre isolant. Parce que ici, là, il y a un passage d'air, donc il y a des mouvements qui s'installent. Il y a aussi la possibilité aussi qu'il y ait des rongeurs et autres qui s'installent dans ces parties-là. Donc, un matériau qui est souple est beaucoup moins efficace qu'un matériau qui est rigide et qui vous assure franchement d'une protection à l'air et une protection mécanique vis-à-vis de l'extérieur. On verra des croquis là-dessus. Et puis, alors, à l'intérieur, donc, on ne met plus maintenant dans nos matériaux isolants respirants, on ne met plus des pares vapeur qui empêchent toute vapeur de passer, mais on met un frein vapeur, c'est-à-dire quelque chose qui n'empêche pas totalement la vapeur de passer et qui lui permettra de migrer tout doucement pour ne pas encapsuler complètement la maison. Voilà. Alors, le petit exemple que je vais vous donner dans les mises en œuvre, si l'isolant est interrompu, ne serait-ce que, non pas par les joints, etc., mais quand vous êtes entre deux chevrons, quand vous êtes entre deux pièces diverses, un mur et un bois quelconque, eh bien, si, prenons le cas des chevrons, si vous avez des chevrons et que vous mettez l'isolant entre deux chevrons, eh bien, on considère que l'épaisseur d'isolant a des déperditions telles qu'elle devrait être augmentée de 40%. Alors vous voyez, un petit peu, même un chevron en bois, qui vous parlait quand même un matériau relativement peu conducteur et assez isolant, même une ossature de bois, ça vous diminue les performances. Alors vous allez mettre 30 cm entre des bois, mais finalement, ce 30 cm, il se réduirait à une efficacité de 20 cm. C'est ce que ça veut dire. Donc il faut faire très attention. C'est un peu caricatural, mais il faut, alors, en ossature métallique, alors, quand vous voulez fixer des isolants, vous avez tout un tas de problèmes techniques à résoudre. Et donc, si vous mettez beaucoup de métal, sachez que le métal est déconducteur et qui vous fait diminuer considérablement. Si ce métal, évidemment, est en contact avec du froid, etc., il va vous conduire le froid et non pas maintenir la chaleur. Voilà, donc tous ces genres de ponts thermiques dans la mise en œuvre sont très importants à connaître et à essayer de maîtriser. Alors, comment à l'intérieur d'une paroi se gère l'humidité ? Alors, on a dit qu'on est à l'intérieur ici, de ce côté-ci. Donc, vous avez une surpression, vous avez donc un parement, vous avez l'isolant, vous avez le mur, et puis vous avez l'enduit extérieur ou le parement extérieur. Voilà. Alors, grosso modo, il y a le fameux diagramme de Glaser, là, qui est cité un peu partout. Grosso modo, vous avez une pression de vapeur saturante donnée par les températures dans le mur, qui est la courbe qui est foncée, noire pour vous, là. Donc ici, on est à 18-20 degrés, là, et puis ici, on est à 4 ou 5 degrés à l'extérieur. Et donc, si jamais vous avez donc une pression de vapeur qui s'exprime ici en pression, s'exprime en pression, les températures sont en fait exprimées en pression, de vapeur saturante. Si vous avez ici une trop grande abondance de vapeur dans votre corps du mur, parce qu'il y aura eu trop de vapeur qui sera rentrée dans le mur, finalement, vous allez avoir ici toute une partie où cette vapeur-là va forcément devenir de l'eau. Donc vous allez avoir une condensation d'eau. Hein, parce que le mur sera froid, et puis que à l'intérieur de l'isolant, le froid il sera ici, et là il sera moins froid, mais entre les deux, vous avez une chute. Donc vous avez ce fameux problème de la condensation de l'eau dans l'épaisseur générale de la paroi, et le risque c'est que cette condensation se fasse dans votre isolant. Donc votre isolant il va être mouillé. On l'a tous plus ou moins constaté un jour ou l'autre. Si vous avez isolé un vieux mur avec une laine de verre et des plaques de placoplate, par exemple, vous vous rendez compte que dans certains cas, votre laine de verre, elle est devenue, elle s'est tassée complètement parce qu'elle elle a été mouillée complètement. Et donc, il y a eu une condensation trop importante. Donc, il faut éviter le risque de condensation. Alors, évidemment, dans la paroi en général, et aussi par le fait que les joints vont laisser passer, évidemment, parce que la vapeur d'eau qui est dans l'habitation, elle ne cherche qu'une chose, c'est à trouver une voie de sortie. Donc les joints sont évidemment les lieux privilégiés. Et puis alors après, une fois, non seulement que votre isolant sera mouillé, mais aussi il faut avoir la possibilité d'évacuer évidemment cette eau. Alors de l'évacuer en principe par l'extérieur si c'est possible, parce que ou à l'intérieur, en migration inverse et avec une possibilité. Donc c'est pour ça qu'il faut une paroi intérieure ici, il faut qu'elle soit respirante, qu'elle laisse passer dans les deux sens ces questions d'eau.